Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast du blog Le Carnet d'Anso. Je suis donc Anso, l'auteur du blog. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet des produits laitiers et pourquoi j'ai arrêté d'en consommer depuis maintenant quelques mois. Donc c'est mon tout premier podcast, donc j'espère qu'il vous plaira et je vous demanderai d'être un petit peu indulgent au cas où je bafouille ou je trébuche sur un mot. Parce que voilà, c'est le tout premier, mais j'espère que vous apprendrez plein de choses grâce à lui. Alors, commençons sans tarder. Ce podcast fait suite à un article que j'ai publié sur mon blog, en fait deux articles, où j'explique justement pourquoi j'ai décidé d'arrêter les produits laitiers. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en faire aussi une version audio pour ceux qui préfèrent l'écouter, si vous avez envie de l'écouter dans votre voiture, en faisant la vaisselle ou voilà, que sais-je. Et l'objectif que j'avais en fait en publiant ces articles, c'était un petit peu de montrer aux gens la façon dont vraiment est produit le lait, tout simplement, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas justement la façon dont on obtient du lait et des produits laitiers, donc du fromage, des yaourts, de la crème, etc. Et je me suis rendu compte que certaines personnes avec qui j'ai discuté du sujet étaient assez choquées en apprenant comment ça se passe vraiment. Alors que finalement, quand on y pense, c'est assez logique et c'est plutôt simple, mais on a tendance à l'oublier ou à en tout cas l'ignorer. Donc voilà, j'ai eu envie un petit peu de mettre les choses à plat. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est savez-vous d'où vient le lait ? Généralement, c'est une question à laquelle on a toujours une réponse. On sait que le lait vient des vaches, jusque-là, on est d'accord. Certains laits peuvent aussi venir de brebis ou de chèvres, mais le processus de fabrication reste le même. Donc je vais me pencher sur le cas des vaches pour ce podcast, puisque ce sont elles qui constituent les plus grosses productrices de lait dans le monde. Donc déjà, il y a deux choses à savoir. La vache, c'est un mammifère. Donc premièrement, elle allaite son petit, c'est le principe des mammifères. Et deuxièmement, pour produire du lait, il lui faut justement qu'elle ait un petit. C'est-à-dire que, comme tout mammifère, elle ne produit théoriquement pas de lait si elle n'a pas d'abord été enceinte et qu'elle a ensuite eu un bébé. Donc la vache va donc accoucher d'un petit veau. Et elle va produire du lait. Mais si on se pose déjà un petit peu la question et on remonte un peu en arrière, comment elle est tombée enceinte ? On peut se demander déjà comment elle est tombée enceinte. Donc moi, je pensais par exemple qu'on mettait la vache dans un joli champ avec un joli taureau et qu'on laissait la magie opérer et que bam, ça faisait un petit bébé. Sauf que en fait, la réalité est un petit peu différente. Alors, je précise quand même dans ce podcast que je vais... Voilà, mon objectif n'est pas du tout de choquer ou de faire peur ou quoi que ce soit. Donc, je n'emploierai pas de mots trop crus ou d'images trop violentes. Rassurez-vous, mon objectif est vraiment de montrer une réalité, mais pas du tout dans un mode extrême ou trop engagé. Après, chacun se fait son avis sur la question. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'informer. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc la vache, comment elle est tombée enceinte ? Eh bien, les industriels du lait, ils ont maintenant besoin d'un rendement très fort et ils n'ont plus le temps d'attendre que la vache et le veau se fassent la cour et décident d'un coup de créer un petit veau. Donc à la place, ils vont directement prélever le sperme chez les taureaux à l'aide d'une petite décharge électrique, c'est toujours sympa, et ensuite ils vont inséminer les vaches. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'image, mais c'est quand même pas super sympa comme situation pour la vache. La pauvre, elle a rien demandé et elle se retrouve inséminée, sachant que l'insémination, c'est pas une opération très délicate et faite avec douceur. Donc voilà, déjà, ça part pas super bien. Mais bon, voilà. Donc voilà comment notre amie la vache est tombée enceinte. Ensuite, elle a donné naissance à son bébé et elle a effectivement commencé à produire du lait. Donc lorsque le petit veau naît, moi je pensais, avant de me renseigner un petit peu, que évidemment il restait avec sa maman et qu'il tétait le lait et que c'était comme ça qu'il se nourrissait et que tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Sauf que si on réfléchit un petit peu, si on laisse le veau téter le lait de sa maman, ça veut dire qu'il n'en restera plus pour les consommateurs. Ça veut dire que ceux qui souhaitent boire du lait, manger des yaourts et du fromage n'auront plus de lait. Donc, ce que les industriels de l'industrie laitière font, c'est qu'ils enlèvent le veau à sa maman au plus vite. Donc certains pourront rester avec elle quelques heures ou quelques jours, mais la plupart sont retirés quasiment dès la naissance, ou en tout cas dans les 24-48 heures qui suivent. Et ensuite, on donne à ce petit veau des espèces d'aliments de synthèse qui sont censés reproduire un peu le lait. Donc imaginez un pauvre petit veau qui vient d'arriver au monde, qui comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive et qui se retrouve tout seul, sans repère, un peu perdu et sans sa maman. Donc déjà ça c'est pas génial et il se trouve que la mère elle est très attachée à son veau. On a beau dire que les vaches ont pas forcément d'intelligence, il n'empêche qu'elle est très attachée à son veau et du coup elle va le chercher et elle peut se mettre à pleurer, à mugir. Oui, une vache mugit. J'ai dû faire une recherche Google pour trouver ça, j'étais pas sûre, mais voilà. Donc voilà, enfin la vache elle est complètement, complètement malheureuse. Et si on se penche sur le cas du veau, donc qu'est-ce qui va lui arriver ? Lui, il va simplement être engraissé assez rapidement et envoyé à l'abattoir au bout de quelques semaines pour se retrouver dans les assiettes sous forme de steak ou de rôti de veau. Enfin, ça c'est la chance, c'est s'il a la chance entre guillemets d'être un mâle, parce que si c'est une femelle, elle aura probablement droit au même sort que sa maman, donc on va la garder en vie pour qu'elle puisse produire du lait à son tour. Donc voilà, déjà, je trouve que la production en termes de bien-être animal, malheureusement, n'est pas idéale. Ces pauvres vaches qui n'ont rien demandé se retrouvent non seulement enceintes, mais en plus, une fois qu'elles ont leur bébé, on leur enlève, elles sont très malheureuses, et voilà. Et si on se penche un petit peu sur le cas du lait, on s'aperçoit que le lait, que l'on pense si bon et si merveilleux pour la santé, ne contient en fait pas que du lait. C'est-à-dire que donc la vache, elle a produit beaucoup beaucoup de lait et que son veau ne va pas téter. Donc il faut forcément lui enlever. Donc c'est là qu'elle passe à la trait, généralement une fois par jour, mais ça peut être beaucoup plus. Sachant que les vaches maintenant produisent trois fois plus de lait aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc c'est pas arrivé de manière naturelle, mais grâce à des hormones et des croisements de races. Donc les vaches, voilà, sont devenues véritablement des machines à lait, sauf qu'elles sont pas forcément physiquement prêtes et faites pour produire autant, donc souvent les pauvres, elles ont des problèmes de dos, elles ont les pis très douloureux, prêts à exploser, enfin voilà, c'est pas du tout confortable pour elles. Donc il faut les passer en salle de traite. Donc la salle de traite, ça n'a rien non plus de très sympathique. Hein. Elles sont en fait mises dans des boxes où elles peuvent pas vraiment bouger et la traite se fait de manière mécanique avec des tuyaux. Ça ne se fait pas avec une gentille petite fermière avec un foulard sur la tête assise sur un tabouret. Donc voilà, c'est beaucoup plus mécanique et robotique, on va dire. Donc comme ces pauvres vaches, elles passent à la traite plusieurs fois par jour ou en tout cas de manière très régulière et qu'elles produisent beaucoup trop de lait par rapport à leur physique, on va dire, leur pis s'infecte régulièrement, donc ça fait du pu, hein, clairement, ce qu'on appelle aussi des cellules somatiques, pour le terme un petit peu plus technique, et celui-ci va évidemment se retrouver en partie dans le lait. Donc je sais, on pense tous que le lait est pasteurisé et donc que le pu est retiré. Alors c'est en partie vrai, mais seulement en partie parce qu'en fait, on ne peut pas tout enlever techniquement et il y a une certaine quantité de pu qui est tolérée dans le lait destiné au consommateur. Donc sachant que si vous buvez un verre de lait, vous aurez quelques gouttes de pu dedans. C'est toujours délicieux. Alors en termes de quantité, on va dire, pour vous donner un ordre d'idée, donc une vache saine, elle produira un lait avec une quantité de 100 000 cellules somatiques par millilitre. Mais la commercialisation du lait sera autorisée avec un seuil allant jusqu'à 400 000 cellules par millilitre. Donc ça vous fait quelques petites magnifiques gouttes de pu dans votre verre de lait. Sauf que pour éviter ou soigner ces infections, ou en tout cas essayer de les réduire au maximum, on donne aux vaches des très fortes doses d'antibiotiques pour combattre. On donne des antibiotiques pour combattre l'infection, jusque-là c'est normal. Sauf qu'on leur donne des doses de cheval, ou des doses de vache en l'occurrence, et une partie des antibiotiques se retrouve aussi dans le lait. C'est bien, vous suivez. Donc, on y retrouvera une partie des hormones qui sont administrées à la vache pour qu'elle passe en ovulation, comme c'est le cas pour avant l'insémination, et aussi une partie des antibiotiques qu'on lui donne pour soigner son infection. Donc voilà, donc un verre de lait, on a beau dire que c'est super bon pour la santé, jusque-là, ça fait quand même pas beaucoup rêver. Ensuite, pour revenir à notre jolie vache, au bout de, on va dire, 4 à 6 années de cette vie géniale, à passer son temps à être enceinte, puis malheureuse et traitée comme un distributeur à lait, hein, clairement, les pauvres vaches sont épuisées et forcément leur production va baisser. Donc à ce moment-là, on les envoie à l'abattoir pour qu'elles servent au moins à produire de la viande. Et il faut savoir que si vous cherchez quelques images, il arrive que même des vaches s'effondrent d'épuisement, c'est-à-dire que très concrètement, elles sont dans le pré et elles n'en peuvent plus, elles s'effondrent par terre. Et il faut alors les traîner jusqu'au camion qui va à l'abattoir à l'aide d'un tracteur, d'une grue. Enfin bon, voilà, des images magnifiques pour cette pauvre vache qui a une vie super géniale. Donc voilà, c'est on va dire les premières raisons qui font que, les raisons principales en fait, qui ont fait que moi j'ai décidé d'arrêter les produits laitiers. Donc les produits laitiers, ça inclut le lait, le yaourt, le fromage, le beurre, etc. J'étais une énorme fan de fromage, mais voilà, c'est le fait de me renseigner sur un petit peu les conditions de vie de ces pauvres vaches et de savoir vraiment concrètement comment ça se passe, ça m'a très clairement dégoûtée. Donc ça a été pour moi la raison numéro 1. Mais c'est pas la seule raison qui peut exister et qui peut pousser quelqu'un à arrêter de consommer des produits laitiers, parce qu'on peut aussi très bien se dire qu'on n'en a rien à faire des animaux et que le fait qu'ils souffrent, ça nous importe peu. Bon, j'avoue que moi, si quelqu'un me dit ça en face, je vais avoir beaucoup de mal à me retenir, de pas m'énerver ou de... Enfin voilà, j'aurais vraiment du mal à comprendre que quelqu'un puisse penser ça, mais ça arrive. Donc, il y a aussi un aspect santé qui fait que il n'est pas forcément très recommandé de consommer du lait ou des produits laitiers pour la santé. Donc, pour vous en donner quelques-unes. Déjà, la première notion, c'est que l'homme est en fait le seul à boire le lait d'une autre espèce. C'est-à-dire que si vous cherchez dans la nature, a priori, un chiot ne va pas boire le lait d'une chèvre, un agneau ne va pas boire le lait d'une vache. Sauf cas extrême, hein, je sais, moi j'ai eu par exemple quand j'étais petite, on a recueilli un chaton qui n'était pas encore sevré et il se trouve que mon chien venait d'avoir des petits, donc avait été en train de produire du lait et le chat s'est mis à téter le chien. Donc je sais, ça arrive, c'est possible, mais voilà, généralement c'est un cas quand même assez extrême et dans la nature, dans l'ordre naturel des choses, ça ne se fait pas. Donc, pour la simple et bonne raison que le lait de chèvre est fait pour les chevreaux, le lait de brebis pour les agneaux, le lait de chien est destiné aux chiots, et le lait de vache est destiné aux veaux, pas aux hommes. C'est-à-dire que chaque lait, en fait, a une constitution différente et il est adapté au petit animal qui est censé le recevoir, et le lait de vache n'est pas adapté à l'homme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à boire du lait de manière si massive? C'est-à-dire pourquoi maintenant c'est dans le quotidien, on prend ça pour acquis, le fait de boire du lait, manger du fromage, des yaourts, on nous recommande même de manger 3 produits laitiers par jour. Génial. Donc en fait, il semblerait que cette tendance ait débuté avec Pierre Mendès France, en 1954, qui, à l'époque, avait encouragé les écoliers à boire du lait pour les rendre plus forts et vigoureux. En fait, l'idée, c'était surtout de combattre la dénutrition, parce qu'on était en période d'après-guerre et que voilà, tout le monde était un petit peu dénutri. Donc le lait contenant beaucoup de nutriments, on a décidé de leur faire boire. Ok, soit, mais il se trouve qu'on n'est plus en période de dénutrition, en tout cas dans les pays développés et notamment en France, donc le lait n'a théoriquement plus du tout sa place. Un autre fait intéressant, c'est que l'homme, en fait, est la seule espèce à boire du lait une fois adulte, c'est-à-dire une fois sevré. Normalement, on a besoin de lait quand on est un bébé pour grandir correctement, parce qu'il contient tous les nutriments nécessaires pour un bon développement. La nature est bien faite quand même. Mais est-ce que vous avez déjà vu un chien adulte boire du lait, ou une vache adulte boire du lait, ou un cochon adulte? Généralement non, c'est-à-dire qu'aucune autre espèce adulte ne consomme de lait. Une fois sevré, le corps il en a plus besoin et même il le tolère même plus vraiment. Alors je sais, vous allez me dire, oui mais les chats adorent le lait. Mais en fait c'est un mauvais argument, pour la simple et bonne raison que le chat en fait il boit du lait quand on lui en donne, parce que bon un chat ça mange à peu près tout ce qu'on lui donne, et encore certains n'aiment pas, mais il irait jamais en chercher spontanément dans la nature, c'est-à-dire que vous verrez jamais un chat qui va essayer d'aller téter une vache pour avoir du lait. Et en plus, je sais pas si vous avez déjà donné du lait à votre chat, mais généralement il le digère très mal. C'est-à-dire que vous donnez du lait à votre chat et vous allez vous retrouver, notamment si vous êtes en appartement et que votre chat a une litière, avec des petites surprises. Parce que voilà, le chat ne digère pas plus le lait que nous, les hommes, nous le digérons. C'est la même chose pour les bébés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on remplace, pour un bébé, quand on remplace le lait maternel par du lait de vache, généralement les bébés se mettent à le rejeter, à ne pas le digérer, à être malades, etc. Alors on se dit souvent que c'est parce que leurs intestins sont encore trop fragiles, mais pourtant ils digéraient très bien le lait de leur propre mère. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à étudier et à se questionner un petit peu ici. L'autre élément que je voudrais mentionner, c'est le fait que le lait de vache, il est en fait adapté à la croissance du veau. Il n'est pas adapté à la croissance de l'homme. C'est-à-dire que chaque espèce, comme je vous le disais avant, chaque espèce produit un lait différent, et le lait humain est différent du lait de brebis, de chèvre ou de vache. Et c'est pour une raison précise, c'est-à-dire que chaque espèce produit un lait adapté à son espèce, pas adapté à une autre. Et pour vous donner un exemple, le lait de vache contient beaucoup de facteurs de croissance. Pour quelle raison? Eh bien parce que quand le veau va naître, il pèse environ 45 kg à la naissance, à peu près. Et ensuite, il va prendre du poids hyper rapidement pendant ses premiers jours de vie, c'est-à-dire à peu près 1 kg par jour en moyenne. 1 kg par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au bout d'un an, donc, il pourra facilement peser plus de 300-350 kg. Et pour ça, il lui faut évidemment un peu d'aide. Donc c'est pour ça que le lait de sa maman est bourré de facteurs de croissance, pour faire en sorte que ce petit veau il puisse grandir et grossir le plus vite possible et devenir une vache forte. Sauf que vous le savez, a priori, un bébé humain ne prend pas 1 kg par jour, ou alors il y a vraiment un problème. Donc le lait de vache n'est pas adapté pour la croissance du bébé humain, il est beaucoup trop riche pour l'homme. Donc ça crée des problèmes de santé, puisqu'on n'est pas fait voilà, pour boire un lait qui a autant de facteurs de croissance dedans. Ensuite, si on prend un petit peu la digestion du lait, on s'aperçoit que le corps d'un adulte, en fait, n'est pas fait pour digérer le lait. C'est-à-dire que lorsqu'un bébé va naître, ses intestins contiennent beaucoup de lactase. La lactase, c'est une hormone qui permet au bébé d'assimiler le lactose, qui est l'élément principal du lait. Donc les bébés, grâce à cette lactase, ils peuvent très bien assimiler le lait, celui de leur mère, si vous suivez toujours, parce qu'ils en ont besoin. La nature est bien faite quand même, c'est-à-dire que quand on naît, on a dans notre corps l'hormone qui nous permet d'assimiler l'ingrédient, l'aliment dont on a besoin. Mais plus le bébé grandit, plus la présence de cette hormone diminue. Et en fait, plus on vieillit, moins le corps a besoin et donc peut assimiler de lactose, parce qu'il en a plus besoin, donc il arrête de créer cette hormone. Et en fait, plus on vieillit, plus cette hormone baisse. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi notamment des personnes âgées qui ne supportent plus les produits laitiers parce que leur corps contient très très peu de cette lactase et donc ils ne supportent plus les produits laitiers. Et ça peut même en fait, le lait que maintenant on n'assimile plus quand on est adulte, soit on l'évacue directement, donc à la fois c'est inutile, ça fait travailler les reins pour rien, soit ça peut même devenir un poison pour le corps. Et en fait, il se trouve qu'à l'échelle mondiale, près de 80% de la population est intolérante au lactose. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 présentent des troubles digestifs, je vous avais dit que j'allais sûrement buter sur un mot, des troubles digestifs après avoir consommé du lait ou des produits laitiers. Et c'est vrai qu'on a tous, soit vous-même ou soit dans votre entourage, vous connaissez sûrement quelqu'un qui se retrouve à être pas très très bien au niveau digestif après avoir mangé du fromage, des yaourts ou du lait. Mais voilà, 80% de la population. Je sais pas si ça vous choque, mais moi personnellement, je trouve ça un peu illogique de consommer un aliment qui provoque ce type de réaction chez tant de monde en fait. Je trouve que c'est un petit peu bizarre qu'on nous martèle avec cette idée qu'il faut manger au moins 3 produits laitiers par jour, alors que finalement le corps arrive même pas à vraiment l'assimiler, le digérer. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Alors parce qu'on pense qu'il nous faut du lait pour assurer un bon apport de calcium et surtout pour éviter l'ostéoporose, cette maladie qui touche les os et qui rend les os beaucoup plus fragiles et beaucoup trop fragiles. Donc comment, jusque-là on est d'accord, mais comment expliquer que les pays où l'on boit le plus de lait et où l'on consomme le plus de produits laitiers, c'est-à-dire notamment la France et la Suède, sont aussi les pays où l'on trouve le plus de personnes souffrant d'ostéoporose? Alors que, à titre d'exemple, en Asie, où ils consomment très peu, voire quasiment pas de lait, ils connaissent à peine cette maladie. C'est quand même un petit peu bizarre. Eh bien, c'est en fait très simple, c'est-à-dire que on nous répète, notamment en France, qu'il faut consommer des produits laitiers pour avoir des os solides, et que c'est le seul moyen d'avoir du calcium. Alors certes, le lait contient effectivement beaucoup de calcium, c'est vrai, mais c'est un calcium d'origine animale, puisqu'il vient de la vache, ou de la chèvre, de la brebis, et en fait, il se trouve que le corps humain ne peut assimiler que 40% du calcium d'origine animale. Seulement 40%, c'est-à-dire que donc 60% va se retrouver éliminé par le corps, donc par les reins, etc., qui doivent bosser dur pour éliminer tout ça. Donc à quoi ça sert de se gaver de produits que le corps peine à digérer si en plus la moitié des nutriments, plus de la moitié des nutriments qu'il contient, est éliminée? C'est quand même pas super logique. En plus de ça, il se trouve que les produits laitiers contiennent beaucoup de protéines animales et en fait, celles-ci, elles ont tendance à acidifier le corps parce que le corps est fait pour en avoir une petite quantité, mais on en mange beaucoup trop de nos jours. Donc, trop d'acide, c'est mauvais pour le corps et ça provoque des inflammations et à la longue, potentiellement des maladies graves de type cancer. Mais le corps étant une machine très bien faite, il va essayer à tout prix de combattre cette acidité. Donc il va essayer de trouver un corps alcalin, c'est-à-dire l'opposé d'acide, pour effectuer une sorte de balance et essayer de contrer l'acidité. Et il se trouve que la plus grande source de corps alcalin se trouve dans les os. Donc en fait, le fait de consommer des produits laitiers pour avoir du calcium va en fait fragiliser les os qui, à la longue, vont perdre leur solidité et ce qui va entraîner notamment l'ostéoporose. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et c'est un petit peu le monde à l'envers puisqu'on nous dit qu'il faut boire du lait pour avoir des os solides alors qu'en fait, ça les fragilise. Donc, les produits laitiers sont-ils vraiment nos amis pour la vie? Je ne sais pas. Donc, vous allez me dire, ok, mais on le trouve où, le calcium? Eh bien, en fait, dans la nature. C'est-à-dire que je vous disais donc que le calcium animal n'est assimilable qu'à 40% par le corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le calcium végétal, lui, est assimilable à 75%. Donc il vous suffit en fait de prendre du calcium d'origine végétale et vous allez non seulement beaucoup mieux l'assimiler, mais en plus votre corps va devoir moins fonctionner pour essayer d'éliminer le calcium en trop. Et pour vous donner un petit peu une idée, donc voici quelques aliments qui contiennent beaucoup de calcium, notamment le thym qui en contient plus que le lait. Bon, sauf qu'évidemment, on va peut-être pas manger, on va dire, 100 grammes de thym par jour. Mais voilà, ça peut être une astuce, en mettre un peu dans vos plats. Les algues wakame, qui en contiennent beaucoup. Les épices, comme la cannelle, le cumin, le curry. Les graines de sésame, ça en contient beaucoup, vous pouvez y aller. Le tofu, les amandes, les brocolis, notamment. Les fruits secs, comme les abricots, les figues. Mais aussi les légumineuses, donc comme les lentilles, les haricots rouges, etc. Et les eaux minérales de type épars, contrex. En fait, l'important, c'est simplement de diversifier son alimentation, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le plus d'aliments possible que vous consommez et que vous diversifiez, c'est-à-dire de ne pas toujours manger la même chose et vous trouverez simplement, en fait, votre dose de calcium nécessaire dans les aliments d'origine végétale sans trop vous prendre la tête. Voilà, et je vous conseille, si vous souhaitez aller plus loin encore sur l'aspect produits laitiers et santé, d'aller regarder la vidéo du professeur Henri Joyeux que j'ai mis à la fin de l'article dont je vous parlais au début, donc qui s'intitule « Pourquoi j'ai arrêté les produits laitiers ?» Et il explique voilà un petit peu du coup pourquoi c'est pas bon du tout de boire du lait ou de manger des yaourts et du fromage. Alors, pour terminer sur une note un petit peu plus positive, on va voir par quoi on peut remplacer justement le lait, les yaourts et le fromage parce que ce sont quand même des aliments que l'on est habitué à consommer dans la culture française et je sais que ça peut être un petit peu compliqué de s'en passer pour certains. Moi par exemple, le fromage, donc moi je ne consomme plus du tout de produits laitiers, mais c'est vrai que le fromage ça me manque quand même un petit peu. Donc pour remplacer ça, vous avez plusieurs alternatives. Pour le lait, en fait, c'est très simple. Il existe du lait d'amande, du lait de riz, du lait de soja, du lait d'avoine. Enfin, il existe une multitude de laits végétaux que vous pouvez boire, qui n'auront évidemment pas le même goût hein, que le lait animal, pas totalement le même goût, mais qui feront très très bien l'affaire pour remplacer le lait au quotidien. Je vous conseille de goûter et de trouver celui qui vous plaira le plus, parce que y en a vraiment des différents avec des goûts différents. Il y a du lait de noisette aussi qui est super bon. Donc voilà, vous pouvez en tester plusieurs et voir celui qui vous convient le mieux. Pour remplacer les yaourts, c'est pareil, il y a les yaourts de soja qui remplacent très bien les yaourts traditionnels que vous pouvez déguster nature ou parfumés. Il y a plein de différentes variétés. Tout ça, vous trouvez en magasin biologique, donc au rayon frais. Et pour le fromage notamment, il existe ce qu'on appelle des fromages ou des fromages végétaux qui, eux, donc, sont faits à base de soie, d'huile végétale ou de noix, donc de noix de cajou par exemple, etc. Enfin, il y a plein de variétés, donc ça n'a jamais évidemment le même goût totalement que le fromage, qu'un camembert par exemple, mais ça peut très bien remplacer. Et si vous voulez d'autres idées, je vous conseille notamment d'aller sur mon blog où vous pourrez télécharger un guide gratuit qui vous explique par quoi remplacer tous les produits d'origine animale tout en gardant le plaisir de manger. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut se passer de produits d'origine animale sans être malheureux et sans manger de la salade toute la journée. Donc voilà, vous pourrez trouver dans ce guide plein d'idées, d'alternatives pour remplacer les produits laitiers mais aussi les autres produits d'origine animale. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. On arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et vu que c'est le tout premier, j'aurais vraiment besoin de votre feedback. J'aimerais savoir si vous avez aimé ce tout premier podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soit laisser un petit commentaire à la fin de l'article si vous l'avez trouvé via le blog sur l'article, ou à me laisser une petite note sur iTunes. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous donne rendez-vous donc sur mon blog lecarnetdanso.com où je poste régulièrement des articles, un peu des articles de fond comme le sujet que l'on vient de traiter, mais aussi des recettes, des bonnes adresses que je trouve à Paris ou ailleurs. Enfin voilà, il s'y passe pas mal de choses et je serais ravie de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et puis je vous retrouve bientôt pour un prochain podcast et peut-être à bientôt sur le blog. Thank you.